Bonsoir à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Deuxième temps d'une semaine entière autour de et avec le philosophe et sociologue Edgar Morin dans Les Nouveaux Chemins cette semaine, autour donc de la pensée complexe, sa théorie de la pensée complexe et ses ramifications. Nous parlions hier du suicide, c'est de là que nous allons partir aujourd'hui. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue de nouveau sur France Culture, on va passer toute la semaine avec vous. Hier, nous en étions au suicide. Je vous posais la question, partant de l'étude de Durkheim, le sociologue Durkheim, qui pointe un certain nombre de paramètres qui font qu'on se suicide plus ou moins selon les lieux, les religions, les époques. Je pointais le paradoxe selon lequel cette étude n'épuisait pas les raisons intimes qui portaient un homme à mettre un terme à ses jours, et pour me répondre, vous énumériez, et nous en étions tenus là, ces raisons justement qui portent un homme à mettre un terme à ses jours. Est-ce que vous pensez qu'on peut saturer par l'énumération des raisons ce geste dément et radical du suicide?
Écoutez, je n'énumère pas tellement, je donne les conditions psychologiques, mentales, internes. Je crois par exemple que ce qu'on peut appeler le neurasthénique, celui qui n'éprouve aucune jouissance de vivre, il veut s'arrêter. Et celui-là, il se rate très rarement. Par contre, vous avez ceux qui ont une souffrance à un moment donné, de dépression, et où se sentent abandonnés, surtout par les gens qu'ils aiment ou qui devraient les aimer. Et alors, à ce moment-là, ils se suicident, mais ils se donnent une porte éventuelle de sortie, c'est-à-dire on va avaler un tube de cachet, mais on sait que par exemple quelqu'un doit venir une heure après pour faire le ménage ou je ne sais quoi. Et ces suicides ont l'avantage, quand on s'en sort, quand on est soigné, de ranimer l'affection et l'amour autour de vous et de mettre un terme peut-être provisoire à l'abandon. Alors,
Si on suit votre logique, il y a beaucoup de gens qui ne se suicideraient pas si on leur expliquait qu'ils ne seront pas présents le jour de leurs obsèques et qu'ils ne verront pas leurs proches en train de pleurer.
Écoutez, ça, c'est une imagination. Je ne sais pas si les gens imaginent ça, mais ils espèrent, c'est-à-dire ils se suicident sincèrement, mais tout en se réservant la possibilité de ne pas mourir. Et à ce moment-là, cette possibilité permettra aux autres de comprendre leur désespoir. On se suicide pour faire comprendre à autrui son propre désespoir. Donc, évidemment, on se suicide par désespoir, quelles que soient les motivations. Et je pense qu'effectivement, le sociologisme n'épuise jamais le suicide, puisqu'il n'entre jamais dans le cas des individus. Et Durkheim parlait des suicides qui ne sont pas des sacrifices, parce que quand vous vous suicidez, un kamikaze effectivement se suicide, mais c'est un sacrifice. Et en plus, il fait un acte qu'il croit religieux ou politique. Donc, le suicide, c'est lié à l'individualisme. Et je pense que la modernité favorise les possibilités de suicide dans la mesure où elle favorise les solitudes et les abandons.
Vous qui n'avez cessé dans la pensée complexe, Edgar Morin, de travailler justement sur cette question difficile de la liberté, c'est-à-dire sur le sentiment que la liberté, le sentiment finalement illusoire, que la liberté procède d'une façon de s'arracher à la causalité qui nous détermine, alors qu'en fait vous, et c'est tout le propre d'ailleurs de la pensée complexe et toute sa complexité, vous pensez cette liberté comme inscriptible en même temps dans une série causale qui nous détermine, série causale biologique, sociologique, etc. Est-ce que le suicide ne procède pas aussi du sentiment illusoire qu'on va récupérer sa liberté, comme les stoïciens qui disent finalement « si le destin m'échappe, j'ai toujours les moyens de reprendre la main, en somme, en mettant moi-même un terme à mes jours ». Est-ce que le suicide n'est pas enfant, là aussi, de l'illusion selon laquelle je récupère ma liberté finalement? C'est un geste radical et souverain où je reprends les choses à leurs racines et où je suis l'unique origine de mes actes, indûment.
Écoutez, ça c'est le cas du suicide de Kirillov dans Les Possédés de Dostoïevski.
C'est à lui que je pensais.
Lui, il veut prouver que la liberté est possible, mais il faut un acte qui prouve que cette liberté, et il se suicide. Mais c'est un suicide qui devient un suicide, un sacrifice, et qui sait d'être un suicide parce qu'il veut prouver sa liberté. Moi, je ne sais pas tout ce qui se passe de rumination dans l'esprit de quelqu'un qui va se suicider, je sais que solitude et désespoir sont là, quelles que soient les conditions et les circonstances. Ça prouve que effectivement, quand il n'y a pas ce nous chaud dont on se sent enveloppé, dès qu'il n'y a pas une ferveur, dès qu'il n'y a pas quelque chose qui vous transporte, eh bien, arrive la désespérance qui n'est pas nécessairement, conduit pas nécessairement au suicide. Le suicide devient un cas limite.
Est-ce que la perte de ce nous n'est pas toujours illusoire dans votre système, Edgar Morin? Est-ce que finalement la pensée complexe ne prend pas en compte le fait que la solitude, le sentiment de la solitude, n'est jamais que l'illusion d'une conscience qui, souffrant de ce que Deleuze appelait le sale petit besoin d'être aimé, mettrait un terme à ses jours comme si finalement Dieu avait rompu le contrat qui nous liait à lui au départ et nous avait imposé une existence décevante?
Ben, il est certain que il y a des suicides provoqués par le départ de l'être aimé, mais et aussi des cas que nous connaissons où la perte de l'être aimé va conduire assez rapidement à une détérioration, comme disons, à la prolifération d'un cancer ou des choses comme ça. Mais écoutez, nous sommes le siège de processus destructeurs, autodestructeurs, qui sont du reste inséparables des processus autoconstructeurs. Dans le fond, c'est aussi un problème de complexe qu'avait illustré Héraclite dans sa formule « vivre de mort et mourir de vie ». Nous savons aujourd'hui ce que signifie vivre de mort. Nos cellules se dégradent, et c'est tout à fait naturel en fonction du deuxième principe de la thermodynamique. Elles travaillent, elles se dégradent, elles dégradent leurs molécules, et à un moment donné, ce processus de dégradation est compensé par un processus de régénération qui produit de nouvelles cellules. Amundsen, qui a fait un travail très beau sur ce problème-là, dit que ces cellules qui meurent ne meurent pas parce qu'elles sont devenues trop vieilles. Elles se suicident, mais elles se suicident en fonction d'une série de signaux qui lui arrivent de l'ensemble des autres cellules. C'est-à-dire, allez ma vieille, maintenant c'est fini ton temps, elle implose et les phagocytes vont bouffer les petits morceaux. Donc, si vous voulez, l'organisation de la vie comporte l'organisation de la mort. Et c'est ça qui est complexe, parce que quand Bichat a voulu définir la vie
comme l'ensemble des forces qui résistent à la mort,
il oubliait d'ajouter, en utilisant la mort dans cette résistance. Bien entendu, ça dure jusqu'à ce qu'on cesse de vivre. C'est-à-dire, entre la notion de vie et de mort, demeure l'antinomie absolue. Mais cette antinomie absolue est en même temps relative dans le cas où nous-mêmes, nous utilisons cette mort pour régénérer notre organisme et nos cellules. C'est notre ennemi, mais nous nous débrouillons pour utiliser notre ennemi contre elle.
Le premier à avoir effectué ce travail, Edgar Morin, c'est Platon, dans Le Sophiste, quand il intègre la négativité dans l'être, en expliquant que le discours est aussi tissé de la négation, et qu'il y a du non-être dans l'être, puisque le repos est le non-être du mouvement.
Bien sûr, mais ce sont des idées qui étaient déjà marquées très profondément chez Héraclite, et que l'on va retrouver chez Hegel, etc., bien entendu. Et nous arrivons à cette idée de cette négativité, de ce travail permanent du négatif, qui est en même temps détruit, et qui en même temps nous aide à construire.
Oui, mais il y a quand même quelque chose d'épouvantable dans ce que vous dites, cher Edgar Morin. Jusqu'où va-t-on dans cette comparaison? Est-ce que le sociologue que vous êtes, l'ami de la biologie, l'ami de la sociologie, l'ami de la philosophie que vous êtes, l'homme pluridisciplinaire que vous êtes, jusqu'où va l'isomorphisme entre d'un côté la cellule et l'individu? Est-ce que finalement, si je vous suis, si je suis votre logique, et après tout c'est cohérent, est-ce qu'on peut aller jusqu'à comparer un individu qui met un terme à ses jours et qui croit le faire pour d'excellentes raisons, ou parce qu'il n'a pas le choix, à une cellule qui meurt parce que l'organisme auquel elle participe a besoin de sa propre mort? En somme, est-ce que l'individu qui croit reprendre sa liberté en mettant un terme à ses jours ne fait pas qu'obéir à un programme sociétal qui serait l'équivalent du programme biologique qui justifierait l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire?
Si j'étais réductionniste, je pourrais dire ça, mais je suis anti-réductionniste.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce que si j'essaie de vous suivre en même temps, on peut tomber là-dedans.
C'est bien que je reconnaisse une individualité chez l'unicellulaire, chez la bactérie, Et bien qu'elle soit au sein d'un vaste circuit de communication avec les autres cellules, une cellule a un minimum d'individualité. Mais on ne peut pas comparer avec l'individualité d'une personne dotée d'un esprit et d'une conscience, et qui à ce moment-là, par un acte relevant de sa conscience, prend la décision de se suicider. Si les cellules, dans les conditions de connaissance que nous avons, se suicident, c'est parce qu'elles reçoivent des signaux qui lui disent « sacrifie-toi, ton moment est venu ».
Est-ce que l'individu qui se suicide ne reçoit pas les mêmes signaux ?
À mon avis, non. À mon avis, non. Je crois que là aussi, sinon...
Ça, c'est un démenti à la pensée complexe, non ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont disjointes.
Non, parce que ça, si l'individu obéissait à des signaux sociaux, il obéirait totalement à la société. C'est parce qu'il y a quand même... Et c'est pour ça que la relation entre l'individu et la société, selon la conception que j'avais commencé à vous dire, cette trinité, c'est une relation, et c'est ça la complexité, à la fois complémentaire et antagoniste, et je dirais même aussi concurrente. Il est évident que nous sommes complémentaires et nous ne serons rien sans la société. Mais il est évident qu'il y a un antagonisme, c'est-à-dire qu'il y a une tendance de la société à nous asservir et qu'il y a une tendance de l'individu à refuser l'asservissement et même la domination. Et même chez ceux qui veulent échapper au surmoi de la société, qui vont dans les bas-fonds et qui ne reconnaissent pas la société comme loi, ce sont les délinquants. Donc, si vous voulez, la relation entre l'individu et la société est complexe, comme l'individu entre l'espèce, ou pour tromper l'espèce qui veut la reproduction, on utilise le préservatif ou le coït interrompu.
Pourquoi pas ? Mais c'est une difficulté parce que ça veut dire qu'en somme, dans votre système...
Le mot système est un peu de trop.
Le mot système est un peu de trop. Je le retire s'il vous chagrine. Hein, mais
dans votre conception,
ce qui n'est pas plus modeste que système, mais dans votre
conception... Le système enferme trop.
D'accord. Donc dans votre conception, Edgar Morin, dans votre vision du monde, on a le sentiment qu'on peut expliquer les choses, qu'elles obéissent à des mécanismes, qu'on peut les comprendre, qu'on peut les expliquer. Alors, comprendre et expliquer, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on a le sentiment que les choses s'expliquent. Et en même temps, on a le sentiment que vous ménagez, par des espaces de liberté, d'incompréhension, finalement, la possibilité d'un jugement. C'est-à-dire, par exemple, juger une société qui asservit l'individu, ou bien juger la démarche d'un individu qui se mettrait hors la loi. En somme, certes, tout s'explique, mais la possibilité de tout expliquer ne sature pas la possibilité d'un jugement moral sur les comportements humains. Comment est-ce que vous tenez les deux bouts de la chandelle, si j'ose dire ?
Bon, tout d'abord, je ne dis pas que tout s'explique. Je pense que, d'abord, vous avez dit vous-même qu'il y a une différence entre explication et compréhension.
Oui, c'est vrai.
Dans l'explication, on reste dans l'objectivité pure, mais dans la compréhension, entre une part de subjectivité, de sympathie. Bon, les deux sont nécessaires, mais toute ma conception est fondée sur le fait qu'un savoir exhaustif étant impossible, on est condamné à des incertitudes. Autrement dit, la complexité, ce n'est pas la complétude. Bien sûr, c'est l'aspiration à un savoir multidimensionnel et qui, s'il n'avait pas de barrières, voudrait être un savoir total, comme dans la philosophie de Hegel. Mais nous savons que cette totalité est impossible, qu'il y a une part d'inconnu, de hasard, d'accident, d'aléa un peu partout. Et donc, la pensée complexe nous amène à reconnaître toujours l'incertitude et à l'affronter. Alors, cela étant dit, nous sommes dans une situation où, en tant qu'individu, nous pouvons prendre des décisions éthiques. Mais là aussi, je reviens au pari. Je pense que je peux penser que ce que je veux faire et ce que je vais faire est bien, mais je sais que je peux me tromper, ou plutôt que l'action que j'ai voulu ne s'aille pas dans le sens que je crois. Moi, quand j'étais communiste, je répète, à cette époque, je pensais qu'il y avait un avenir merveilleux, une civilisation allait s'épanouir à la fin de la guerre. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas ainsi, eh bien, j'ai décroché et je suis devenu opposant. Donc, si vous voulez, on peut corriger Il faut quand même être capable de faire la révision, non pas la révision des 10 000 comme pour les moteurs de voiture, mais peut-être la révision annuelle de ce qui est important, de ce qui est secondaire, de ses croyances, est-ce qu'on a bien parié. Et donc, je pense que ça nécessite une révision et une autocritique permanente. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait un livre qui s'appelle « Autocritique ». J'ai éprouvé le besoin de comprendre pourquoi je suis devenu communiste alors que j'avais une culture qui aurait dû m'en empêcher. Et comment, non moins difficilement, je me suis déconverti, c'est-à-dire pour échapper en quelque sorte à ce qui était devenu une sorte de famille. Donc vous voyez, on est toujours lié dans des problèmes. Et je dirais, les contradictions. Nous sommes tissés de contradictions. Pas seulement entre l'altruisme et l'égoïsme, tout en nous. Nous ne sommes pas les mêmes dans l'amour, dans la colère. Nous sommes des êtres multiples. Et nous sommes parfois des êtres qui dérivons. Et moi, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai deux expériences. D'abord, l'occupation et le communisme. L'occupation, j'ai des amis très proches qui étaient pacifistes, comme du reste moi-même je l'étais. Et pendant la première année de l'occupation, au moment où l'Empire hitlérien s'étendait sur l'Europe. Mais,
et où la Russie s'entendait fort bien avec l'Allemagne.
Et où la Russie s'entendait très bien avec aussi. À ce moment-là, ils pensaient que de toute façon, en dépit des tares de l'hitlérisme, un ami me disait « Oh, l'Europe se ferait, mais avec cette lâcheté qu'est l'antisémitisme. » Bon, ils étaient conscients, mais ils avaient cette idée. Or, quand la guerre est devenue mondiale, quand l'URSS a résisté, quand l'Amérique entre dans la guerre, ces gens-là qui étaient dans un cadre d'une paix, la paix allemande, la Pax Germanica, sont devenus des instruments d'un belligérant en guerre. Ils ont dérivé. Des gens qui sont devenus communistes dans l'exaltation de la guerre sont entrés dans l'appareil du parti. Et là, par dérive, ils se sont mis à penser, pas moi, à dénoncer Tito comme un agent nazi, à penser que les accusés des procès des démocraties populaires étaient des traîtres. Or, le danger qui guette chacun d'entre nous, c'est la dérive. C'est-à-dire qu'on croit être fidèle à un idéal, mais sous cet idéal, c'est le contraire de ce qui se passe.
En somme, ce que vous pensez, c'est que l'utopie n'advient jamais sous peine, ou le paradis utopique n'advient jamais sous peine de devenir l'enfer.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a une utopie qui est infernale.
C'est l'utopie qui se prend pour la réalité.
Non, c'est l'utopie qui prétend établir l'harmonie totale et la perfection. Moi, au moment de de Gorbatchev, de cette perestroïka, il y a un ami soviétique, russe, hein, me dit « On a réalisé à la perfection chez nous l'utopie du socialisme de caserne. » L'utopie mauvaise, c'est celle qui veut la perfection et qui va obliger à être parfait, c'est-à-dire à penser tous de la même façon, à ne plus être religieux, à ne plus être... Bon, alors ça c'est la mauvaise utopie, il faut abandonner. Mais la bonne utopie est celle qui aspire à quelque chose qui semble impossible dans les conditions actuelles, mais qui n'est pas impossible. Prenez par exemple la paix sur Terre, hein. Sur la planète actuellement, c'est impossible. Au contraire, les conflits se multiplient. Mais il n'est pas impossible de penser qu'il pourrait y avoir une entente entre les peuples différents, les nations, de même que dans les nations, alors qu'on a dépassé l'époque où les féodaux se combattaient, etc. La famine. Actuellement, c'est impossible de traiter ce problème de la faim pour des tas de raisons politiques, bureaucratiques, économiques, je ne sais pas. Mais il y a des moyens de production pour le faire. Autrement dit, la bonne utopie, elle est peut-être impossible aujourd'hui, mais concrètement, elle est possible et elle ne veut pas l'harmonie absolue.
On va reprendre là-dessus et d'abord, on va entendre la voix et les paroles d'un homme de paix, Bob Dylan.
John is in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie Maggie says the many say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those who care around.
Edgar Morin, la perfection est possible, Bob Dylan existe.
Bob Dylan est magnifique, il n'est pas le mot parfait, il n'est pas juste.
Vous ne lui appliqueriez pas. Quelle place occupe Bob Dylan dans votre conception, comme on dit, Edgar Morin ? C'est important, non ?
Ben, Bob Dylan, c'était un grand troubadour de mon époque, en tout cas. Et je pense que dans sa musique même, qui est très entraînante, il y a des messages que je trouve très beaux. Dont ce message, celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. Et c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut toujours se régénérer, qu'il faut, autrement dit, ceux qui ne se régénèrent pas se détruisent.
Et philologiquement, ne pas être occupé à naître, c'est être occupé à mourir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut systématiquement penser contre soi-même ?
Ça veut dire qu'il y a toujours il faut penser contre une partie de soi-même.
Vous venez de parler, on parlait de vos erreurs. Vous avez rédigé votre autocritique, vous avez été au Parti communiste, vous avez pensé contre vous-même. Est-ce que finalement...
Contre une partie de moi-même.
Et contre une partie de vous-même, mais qui était vous-même à l'époque, qui était...
Vous savez, j'étais pas un croyant absolu, parce que, vous savez, quand...
Croyant.
Non, j'étais pas le croyant. Je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur de me lancer dans cette action avec tellement de risques. Mais quand même, comme j'avais 20 ans et que j'avais compris intuitivement que si je voulais vivre, c'est vivre intensément en risquant sa vie, alors que sinon c'est simplement survivre, ça me poussait. Mais je tenais un journal. Et les deux dernières choses que j'ai écrites avant d'arrêter ce journal, c'était, j'écoutais à la radio l'ouverture du vaisseau fantôme. Et j'ai écrit « Tempête du vaisseau fantôme, emportez-moi ». C'est un peu Chateaubriand.
La Martinien, oui.
Non, levez-vous, orage désiré.
Oui.
Et l'autre, c'est « Conviction ou foi sincère, point d'interrogation. On verra plus tard ». J'ai toujours gardé mon doute dans ma foi. Et c'est pour ça que ce doute que j'ai toujours gardé dans ma foi m'a toujours aidé à la dépasser.
Est-ce que ça va, le fait de conserver son doute dans la foi, va de pair avec le fait chez vous que l'homme souffre parce qu'il est disjoint, cloisonné finalement, parce qu'il rétablit des cloisons là où il n'y a pas lieu d'en installer ?
Certainement, c'est une des causes...
Le doute est une porte ouverte.
Oui, certainement, c'est une cause de ces... de ces souffrances, mais il y a aussi des souffrances proprement existentielles, c'est-à-dire ne pas réaliser ses aspirations, être obligé de faire le contraire de ce à quoi on aspire, c'était une chose terrible. Ben, j'ai à la fin de mon éthique, hein, je crois, je dis une des deux missions de l'éthique, c'est de faire en sorte d'aider chacun à pouvoir réaliser la partie poétique de lui-même.
La partie créatrice, donc.
Oui, mais pas seulement créatrice. Poétique, c'est-à-dire la capacité de vivre dans l'amitié, dans l'amour, dans la fête, dans la joie, dans l'extase, si possible. Et ça, bien entendu, c'est une partie créatrice aussi. Et ça, c'est une chose qui est tellement de gens sont réduits à la vie prosaïque qui leur est imposée. Et donc, je crois qu'une cause de la souffrance, c'est de ne pas pouvoir réaliser ce qui est en soi et ne demande qu'à vivre.
Poésie pour poésie, Edgar Morin, on va entendre Allen Ginsberg en personne lire son poème de Sunflower Sutra.
Parfait.
I walked on the banks of the tin can banana dock and sat down under the huge shade of a Southern Pacific locomotive to look at the sunset over the box house hills and cry. Jack Kerouac sat beside me on a busted, rusty iron pole companion. We thought the same thoughts of the soul, bleak and blue and sad-eyed, surrounded by the gnarled steel roots of trees of machinery. The oily water on the river mirrored the red sky. Sun sank on top of final Frisco peaks. No fish in that stream, no hermit in those mounts, just ourselves, roomy-eyed and hungover like old bums on the riverbank,
tired and wily. "Look at the sunflower," he said. There was a dead gray shadow against the sky, big as a man, sitting dry on top of a pile of ancient sawdust. I rushed up and chanted. It was my first sunflower. Memories of Blake, my visions, Harlem, and hells of the eastern rivers, bridges clanking Joe's greasy sandwiches, dead baby carriages, black treadless tires forgotten and unretreaded, the poem of the riverbank, condoms and pots, steel knives, nothing stainless, only the dank muck and the razor-sharp artifacts passing into the past.
Tenant passage de Allen Ginsberg lui-même, donc lisant son poème, d'ailleurs lisant de façon étonnamment solennelle quand on lit la lettre du texte, la solennité, le ton solennel n'est peut-être pas ce qui convient le mieux à ce qu'il raconte. Il dit notamment « nothing stainless », rien n'est sans tâche, rien n'est sans tâche. Est-ce que s'il n'y a pas derrière cette idée que rien n'est sans tâche, l'idée en somme que nos erreurs, Edgar Morin, ne sont pas tellement ce qu'il faudrait révoquer absolument, totalement, définitivement, et bannir comme des figures du néant, à la façon dont Descartes le fait, mais davantage qu'il faudrait avoir, comme dirait Jules Renard, le courage d'accepter nos faiblesses, nos lâchetés, nos tâches, finalement. Et je le prends au double sens, ici.
Je crois qu'il y a deux choses, à mes yeux, distinctes. Il y a d'abord le problème de l'erreur. Nous sommes condamnés à l'errance. Et je dirais qu'il est beaucoup plus facile de détecter des erreurs que de trouver la vérité. Du reste, Popper, dans sa philosophie des sciences, en disant que la science ne trouve jamais la vérité théorique, n'est-ce pas ?
Elle peut toujours être révisée. Elle trouve le non encore faux.
Elle peut être révisée, mais on peut très bien progresser dans la détection des erreurs. Et puis, mon idée de la connaissance étant une traduction et une reconstruction, elle comporte en elle en permanence le risque d'erreur et d'illusion. Donc nous ne pouvons pas échapper à l'erreur, nous essayons de combattre. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je crois que vous avez raison, chacun porte en soi des zones d'ombre, des carences, des tâches, plus ou moins grandes. Voilà. Et la tendance normal entre guillemets, et de se les masquer à soi-même selon ce processus que les Anglais appellent self-deception, le mensonge à soi-même. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, enfin disons, cet auto-examen dont l'exemple est montré par Montaigne, que cet auto-examen, c'est une chose qui ne devrait pas relever seulement de quelques grands écrivains, mais qui relevait de chacun. S'il y avait une réforme de l'éducation et de la pensée, elle comporterait en permanence cet auto-examen. C'est-à-dire avoir le courage de comprendre que vous parliez de perfection, nobody is perfect, personne non seulement n'est pas parfait, mais qu'on a des trous, parfois des trous noirs en soi-même. Et cela, je pense, est aussi une considération éthique. C'est pas seulement un peu de modestie, c'est aussi un peu de compréhension d'autrui. Parce que si soi-même on a des carences, des faiblesses, on peut comprendre qu'autrui ait des carences et des faiblesses.
Et on peut aussi se donner les moyens d'être convaincu par la parole d'autrui, Edgar Morin. Comment pouvez-vous penser comme vous le faites, sans être systématiquement, d'une certaine façon, sensible aux objections qu'on vous adresse ? Vous l'êtes forcément, non ? Fatalement ?
Oui.
Toujours ?
Écoutez, il faut dire que quand j'étais gamin ou adolescent, on pouvait me convaincre facilement à travers les arguments contraires me touchaient, j'ai dit oui. Et c'est pour ça que, devenu adulte, j'étais très sensible à ce que disait Pascal en disant que le contraire de la vérité n'est pas une erreur, mais une vérité contraire. Mais ça ne veut pas dire que pour moi tout s'équivaut. Ça veut dire qu'il y a toujours une part de vérité. C'est Proust qui disait que il y a dans l'antisémitisme des vérités devenues folles, c'est-à-dire les vérités, c'est-à-dire les caractères singuliers des juifs dans le monde actuel, mais devenues folles parce qu'elles étaient traduites en termes péjoratifs et hypostasiques. Donc, si vous voulez, je crois et je veux rester sensible, disons, à part de vérité. Seulement, mon idée, c'est qu'une vérité partielle est en même temps une erreur. Mais comme la vérité totale absolue n'est pas possible, nous sommes condamnés à essayer d'avoir des vérités les moins partielles possibles.
L'erreur en chef serait peut-être de croire qu'on détient la vérité totale. On reprend là-dessus, hein, demain, Edgar Morin. Merci d'être venu nous voir. À la technique aujourd'hui, c'était Axel Brizard. À la réalisation, Ghislaine David. Assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richet, France Culture. Il est 20h. Tout de suite, on retrouve à Voix Nue sur France Culture.